écouter une émission diffusée pour la première fois le 23 septembre 2024.
Quand un petit Palestinien prend une gifle, on a mal à la joue. Quand il tire un caillou pour se défendre, on tire un caillou avec lui.
Vous vous rendez compte que votre plateau est toujours surreprésenté par la gauche?
On veut bien être gentil, mais pas con.
La première chose qui te saute aux yeux, les briques, c'est les briques rouges.
Plaignez pas, ne jouez pas au con avec
nous. On est trop gentil.
Le rouge, c'est la couleur du sang, le rouge, c'est la couleur des Indiens, c'est la couleur de la violence.
On est gentil, hein? On est toujours gentil.
C'est capitaliste, plaignez pas.
Arrête-toi.
Mais le rouge, c'est aussi la couleur du vin. Le vin qui dit vin, qui porte vin. Parce que tout ça, c'est magouille et compagnie, c'est politico. Tu vois, c'est des histoires de fric.
Je vote pas pour les capitalistes, hein.
Bon, je suis ouvrier.
On est trop gentil.
Lundi, 19h sur Radio Campus 106,6 en modulation de fréquence libre, campusil.com et la radio numérique terrestre. On passe au rouge. On passe au rouge, c'est l'émission qui annonce la couleur. Cette semaine, une émission réalisée par Seb, avec la présence pour les commentaires de Fabienne. Salut Fabienne.
Bonjour tout le monde.
On peut signaler que vous pouvez retrouver nos émissions de radio sur le site internet campusil.com pendant 2 mois. Vous allez à la section programme. Le lundi à 19h, vous pouvez aussi retrouver cette émission Ad Vitam Aeternam sur toutes les plateformes possibles et imaginables. Cette semaine, on vous rapporte des souvenirs de vacances. Alors, reportage début août chez les nocibés de l'entrepôt de Villeneuve-d'Ascq. Eh ben oui, leur lieu de travail était déplacé de 40 km quand même. Et on a fait un tour à Manifiesta pour entendre parler de répression des luttes. Mais avant ça, qu'avons-nous à déclarer, Fabienne? Qu'as-tu à déclarer? Je te pose la question et j'attends une réponse.
2 mois d'attente et je dirais tout ça pour ça. Alors.
Je sens que tu vas nous parler de Macron, toi, non?
De Barnier. Je le sens, c'est
Barnier, Macron, tout ça, quoi, le macronopénisme. Ouais.
Toute la clique.
On t'écoute.
Alors, le gouvernement fait le grand, enfin pas si grand, écart entre la droite et le fascisme. La crise systémique du capitalisme, avec une bourgeoisie qui en vient à devoir encourager les forces proches, les forces productives, non, à supprimer les forces productives, oulala, car crise de surproduction, c'est-à-dire on produit trop et comme on est trop pauvre, on ne peut plus acheter. On est dans une situation où ceux d'en haut ne peuvent plus, ceux d'en bas ne veulent plus. Eh ben, situation pré-révolutionnaire, comme le décrivait Lénine juste avant la révolution d'octobre 17.
Ah, on en arrive au bout du consentement des masses.
Tout à fait, tout à fait. Mais aussi, là, dans une période sombre, où les forces tapies dans l'ombre menacent, mais de moins en moins dans l'ombre, les forces progressistes, nous sommes dans une période de clair-obscur. Front contre front, voilà ce qu'il est. Il est urgent de renforcer le nôtre pour que nous puissions renforcer la vapeur, le rapport de force en notre faveur. Et toi, Seb, qu'as-tu à déclarer?
Alors, je vais citer un journal allemand, Die Zeit. C'est un hebdomadaire, c'est l'hebdomadaire le plus lu en Allemagne, qui parle lui aussi de ce que fait Macron avec ses différents gouvernements. Alors, qu'est-ce qu'il écrit, Die Zeit, là, cette semaine? Emmanuel Macron, qui a commencé au centre, défend aujourd'hui des idées qu'on ne trouve que dans les programmes des partis d'extrême droite en Allemagne. Et oui, parce que cet hebdomadaire, pourtant conservateur, considère qu'en réalité, le curseur politique français, maintenant, est bien plus à droite que ce qu'on peut trouver en Allemagne. Alors, on peut lire aussi dans les colonnes de ce journal que Emmanuel Macron et son ancien Premier ministre Gabriel Attal ont tous les deux entamé un net virage à droite au cours de leur mandat. Sauf que cela n'a servi à rien. Au contraire, cette stratégie a permis à Marine Le Pen d'engager et d'engranger les victoires et de normaliser son parti.
Mes frères, à tout jamais, je t'annonce. monde entier. La déraison est ma seule raison, pas besoin de le clamer. Tu cherches à gravir les échelons, mais c'est moi le sommet. J'ai pas d'ange assis sur mes épaules avec qui m'est d'accord. Ma faim est sans mémoire comme un membre de mon corps. Ma faim, moi, elle manque à mes dépens comme le cador. Faut que je raille, faut que je te graille pour nous mettre d'accord. Dépisté par un prédateur qui va tout le cœur. J'pondrai sur toi dans un peu temps d'avoir peur. Je salue, je sens ton bout échapper. Le processus s'est lancé, tu ne peux m'arrêter. Famille chez moi, c'est le sang de mon délire. J'ai pas de réalité pour pouvoir me nourrir. Si mon Dieu il y a une piste sur ma raison, elle est pas. Où les vents crient famille dans les quartiers et les blocs. J'ai faim jusque dans mon écorce, c'est sans équivoque. J'ai faim de compétition, y'a plus de vrai, si on stop. Ma faim ne fait des fournies à ma langue et mon esprit. C'est bon, mais j'aime mon instinct, c'est l'ange sacrée. Prosterne-toi, puis j'ai l'estomac avec le con. Je reprendrai bien du dessert pour le dernier rang.
C'était Joe Star sur Radio Campus 106,6, affamé.
On passe au rouge. Retrouvez-nous pendant deux mois sur campuslille.com.
Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais début août, Nocibé, groupe de cosmétiques français, était en grève, ou plutôt son entrepôt de Villeneuve d'Ascq, unique entrepôt en France, en grève et bloqué, car leur secteur était versé à la sous-traitance, à Géodis plus exactement, qui les délocalisait à 40 km plus loin que de là où se trouvait leur entrepôt initial. Alors, Géodis, ils sont notamment connus pour embaucher des chauffeurs roumains à 237 € par mois. Mais dis-moi, ça ressemble à un plan de licenciement déguisé, tout ça?
Oui, ça ressemble, surtout qu'ils ont réussi le coup, puisque près de la moitié, un peu plus de la moitié finalement, des salariés de l'entrepôt n'ont pas suivi, et ne sont pas allés travailler à Géodis. Ils sont aujourd'hui en congé de mobilité, comme on dit.
Maghrébin, Pakistanais ni Indien, terroriste, et pas sans papier, pas années, pas non plus.
On est devant l'entrepôt de Nocibé à 2 rue Tikleni à Villeneuve-d'Ascq.
On a déjà la moitié de la marchandise qui est chez Géodis, donc qui se situe à Douvrin. Et donc justement, c'est là qu'on vient parler de la grève. Moi, je m'appelle Anaïs, je suis salariée chez Nocibé depuis, ça va faire 3 ans là.
Je m'appelle Cécilia, je suis en préparatrice de commande à Nocibé depuis 3 ans, bientôt aussi.
Je m'appelle Farid, je suis en préparation de commande à Nocibé depuis 6 ans.
Comme on dit, Nocibé, la beauté partagée. Donc ils vendent du maquillage, mais surtout du parfum.
Et des soins. Ouais. Des soins.
En fait, ils externisent la logistique au profit d'un sous-traitant et ils m'ont 36 salariés à la porte. Ça se trouve à 40 km d'ici et que rien n'est fait pour aller là-bas. Et pour nous, ils proposent rien ou presque rien pour ceux qui ne peuvent pas suivre.
Tous les salariés sont invités à être recasés, mais à 40 km d'ici.
C'est bien ça.
Ok. Et quelles difficultés ça pose?
Sur nos vies privées, sur nos organisations, sur le coût du trajet, sur tout en fait.
Nos horaires vont changer. Là, par exemple, au plus tard, on termine à 17h30. Là-bas, au plus tard, dans les grosses périodes, ce sera 22h. Donc, c'est déjà assez loin. Et si en plus, on finit plus tard, on va passer plus de temps au travail et sur la route que chez nous. Niveau de vie personnelle, ça joue quand même.
Vous négociez quoi, la prime de licenciement ?
primes de licenciement, les primes pour les formations et le congé de mobilité qui est de 4 mois avec un coût de formation plus le suivi du cabinet à 8 000 euros par agent qui n'est pas fiable pour toutes les formations.
On a décidé de se mobiliser pour montrer notre mécontentement à partir de mai.
Parce qu'on a quand même dû tout faire tout seul, parce qu'on est représenté au sein de l'entreprise par la CFTC et qu'ils ne s'en occupent pas, ils ne nous écoutent pas, ils font tout dans notre dos.
Alors le syndicat majoritaire de la boîte, c'est pas la CGT dont vous faites partie, c'est la CFTC.
Oui, c'est bien ça. Ils trouvent des accords sans nous demander notre avis et des accords qui sont pas viables pour les agents. En fait. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont 15 ans d'ancienneté qui vont toucher 21 000 euros de primes d'extra-légal, alors que des personnes qui en ont 30 vont toucher 13 000. Et ils trouvent ça tout à fait normal.
Le problème, c'est que les patrons ne sont pas avec les employés. Genre, ils s'en foutent de notre bien-être. Et au bout d'un moment, après, ils s'étonnent qu'on soit pas bien, que ça marche pas. C'est normal. Ben là, c'était il y a 3-4 ans, le PSE pour les magasins. Parce qu'ils ont décidé... c'est peut-être... ils ont décidé qu'il y avait trop de CGT dans certains magasins. Du coup, ils les ont licenciés.
Ils ont licencié les délégués syndicaux CGT.
C'est ça.
Le syndicat, c'est l'outil des salariés qui sont dans l'entreprise. Donc c'est déjà leur outil de lutte dans l'entreprise. Ensuite, évidemment, le syndicat et la CGT, c'est aussi un outil de solidarité interprofessionnelle. Donc on est évidemment là sur des soutiens logistiques. On est aussi là pour créer des convergences de lutte, pour créer des solidarités au-delà de l'entreprise. Que ce soit d'ailleurs sur le secteur professionnel, hein, il y a le syndicat départemental du commerce qui est là, et plus loin sur l'interprofessionnel, sur le Lillois. Ça va être des militants qui sont là sur le piquet grève, pour constituer le piquet grève. Évidemment, après, il y a les soutiens logistiques sur la visibilité, sur les drapeaux, sur le véhicule, sur le café, etc.
La communication externe aussi.
Sur la communication externe. Ça fait partie aussi de la solidarité, d'être aussi un outil qui va permettre aussi d'avoir plus facilement accès à des contacts, etc.
Dans l'histoire du syndicalisme, en gros, il y a vous et puis il y a les syndicats chrétiens. Aujourd'hui, on se retrouve un petit peu aussi à l'échelle de Cibé dans cette dualité-là, puisque la CFTC, elle, a signé un accord donc, qui déplaît aux salariés en lutte aujourd'hui avec la direction. Est-ce que vous CGT, UL, vous n'avez pas des moyens de rétablir une discussion avec la CFTC?
Alors, de manière plus générale, y a effectivement deux manières de faire du syndicalisme. Il y a un syndicalisme qui va être celui qui accompagne les décisions prises par le patronat, et il va y avoir un syndicalisme qui part des besoins du monde du travail et des besoins des salariés, que ce soit dans l'entreprise ou que ce soit sur des questions générales de société. Et ça, on a toujours ça. Alors, il se trouve, je ne vais pas vous cacher, que là, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas.
Il n'y a pas d'intersyndical de la.
En tout cas, voilà. En tout cas, là, ça n'a pas. En tout cas, là, ça ne fonctionne pas. Voilà. Des fois, ça peut fonctionner, et là, ça ne fonctionne pas. On a aussi un vrai souci, c'est que aujourd'hui, s'il y avait des élections à Nocibé, il y a fort à parier qu'il y aurait que la CGT qui soit représentative. Malheureusement, la représentativité, elle est calculée sur les élections qui ont eu lieu il y a quelques mois, où il n'y avait pas encore la CGT.
Devant cet entrepôt de Nocibé, on voit des camions qui arrivent, j'imagine, pour amener de la marchandise ou bien pour aller en distribuer. Et vous faites quoi, vous ?
On est devant, donc on manifeste notre mécontentement. Ensuite, on a la CGT qui est avec nous, qui, eux, vraiment agissent. Nous, on ne peut pas agir, on n'a pas le droit. Voilà. Donc, eux agissent et bloquent les camions pour dire, vos salariés ne sont pas contents aujourd'hui. C'est une grève aujourd'hui. La marchandise ne rentre pas, ne sort pas. Ça peut recommencer, et on espère que ça fera bouger les choses.
Et les conditions de travail actuellement, ça se passe comment dans cette boîte?
Ah, quel niveau.
Ça vous fait sourire, monsieur. Mais pourquoi donc?
Les conditions de travail, je dirais... Bon, c'est pas catastrophique, hein. On n'est pas chez d'autres boîtes où c'est vraiment on est des robots. Voilà, c'est quand même, je dirais, assez familial, avec quelques libertés. Mais moi, je pense qu'il y a un gros problème de communication. Parce qu'il faut savoir aussi que je reviens au sujet d'avant, mais la CFTC, par exemple, a signé l'accord pour qu'on soit transféré chez Geodis sans notre accord. Donc ils ont signé ça entre eux sans nous contacter.
Quand vous dites nous, les salariés.
Les salariés, oui. Quand je dis nous, c'est les salariés. Donc déjà, je pense qu'il y a un gros problème de communication et ça joue aussi sur les conditions de travail, la qualité de notre travail et nos relations avec la hiérarchie, etc.
Le dialogue social, ça marche pas, ça existe, ça?
J'ai un doute.
Je pense que lors des entretiens, pour ceux qui ne voulaient pas la Geodis, on nous a clairement conseillé de démissionner. Donc,
Qu'il n'y aurait pas d'évolution.
Ah bon, la fin.
Qu'il n'y aurait pas d'évolution, donc ça ne sert à rien de négocier plus. Voilà.
Ou bien vous acceptez ce qu'on vous propose, ou bien vous partez.
Ouais, c'est ce qu'on nous proposait en janvier.
Vous êtes des préparateurs de commandes.
Il y a des bacs qui sont destinés au magasin. Et on doit faire ce que le magasin a demandé.
Donc vous avez une fiche avec un certain nombre de produits.
Non, on a une radio. C'est plus technique. On a une radio et on a une radio et quand on bippe le bac, et ben il nous donne la référence, ouais, les emplacements à aller chercher tel produit. Quand c'est terminé, on repousse le bac et le bac fait le tour de l'entrepôt et
ouais.
Cet énorme bâtiment qu'on voit là, c'est quoi? C'est comme un énorme supermarché avec des rayons super.
En gros, oui, c'est ça.
Ouais. On a des espèces de gares qui sont similaires à des allées de supermarché. On a le déballage, je trouve ça similaire à des caisses de supermarché aussi. Le déballage, c'est là où on reçoit la marchandise des fournisseurs. Pardon. Voilà. Donc c'est vrai, c'est un peu un grand magasin.
On doit faire 230 emplacements par heure.
Mais après, sur le contrat, ce n'est pas marqué qu'on doit faire autant de production.
Mais on a quand même un temps pour les faire parce qu'on a des transporteurs qui viennent chercher ces bacs qu'on prépare et donc ils sont là une certaine heure et on a par exemple on a des 04, 03, c'est les numéros de nos transporteurs. Ça c'est le matin donc ça doit partir avant une certaine heure et tout doit être aux expéditions prêt à être chargé dans les camions.
Par exemple les bacs les 01 c'est internet donc ce que les gens commandent sur internet et ben ça doit être préparé avant 7h30. Et quand il y en a beaucoup, comme en période de Noël et tout, c'est assez difficile d'arriver dans les temps quand même.
Les prods augmentent tous les ans. À l'heure actuelle, elle est à 230 emplacements heure, mais il n'y a aucune prime d'objectif, rien du tout.
Si, on a une prime prod. Ils nous ont proposé, oui, depuis 3 mois, ils nous ont proposé une prime de production. Mais elle est collective, elle n'est pas individuelle. Donc, par exemple, ça veut dire que même les intérimaires qui travaillent avec nous, leur production est prise en compte dans cette même prime. Donc, ils n'ont pas la prime. Donc, c'est comme si ils travaillaient pour nous. On a la prime grâce à eux. Et ça, on ne trouve vraiment pas ça juste parce qu'ils méritent autant. C'est nos collègues, en fait.
Juste un peu plus précaire.
Voilà.
On est des stars.
Conseiller régional de France.
Bonjour.
Ici sur le piquet de grève Nocibé. Vous ne deviez pas partir en vacances, vous, plutôt que d'être là?
Il le faudrait, et à vrai dire, je l'ai déjà un peu fait et je vais encore le refaire un peu. Donc voilà, j'ai juste profité de ma présence encore là cette semaine sur la métropole pour venir aider les camarades, tout simplement.
On est au tout début du mois d'août. Et il y a en effet un piquet de grève devant l'entrepôt de Nocibé à Villeneuve-d'Ascq. C'est le syndicat, la CGT, là, qui est là. Et vous êtes un élu, vous avez une organisation politique, la France Insoumise. Pourquoi fallait être là aujourd'hui?
Parce que les Insoumis, de manière générale, ont une double fonction, assument une double tâche, à la fois effectivement être présents dans les institutions et combattre pied à pied ce qu'il y a à combattre dans ces fameuses institutions. Et puis l'autre rôle, c'est d'être présent dans la rue, en soutien des salariés, en soutien des manifestants, en soutien des collectifs. Et donc là c'est la CGT, c'est les salariés de Nocibé. Qui sont en lutte en fait depuis plusieurs mois et même depuis plusieurs années. Je parlais là avec une salariée. Il se trouve que Nocibé, ça a été une de nos premières présences à nous, conseillers régionales insoumis, il y a 3 ans et demi, quand il y avait eu pour le PSE sur les magasins qui avait fermé. C'était une de nos premières interventions de ton conseiller régional insoumis.
Baisser la masse salariale, c'est la stratégie selon vous?
En fait, il y a l'idée de concentrer les capitaux sur les structures les plus rentables. Voilà, sur celles où les plus rentables et celles qui génèrent le plus de plus-value. Et donc c'est ce qu'on a vu dans les magasins. Ceux qui ont fermé, c'est ceux qui étaient dans les zones de chalandise les plus populaires, où du coup on peut imaginer le panier moyen d'un magasin était plus faible que les autres magasins qui ont été conservés. Et puis là sur la logistique, sur cet entrepôt. Bon, là, on assiste plutôt à une logique, alors bien sûr de réduction des coûts, mais en fait de sous-traitance en cascade. Le principe de la sous-traitance permet probablement d'économiser certains coûts. Moi, il me semble que les économies ne sont pas si extraordinaires que ça, et que notamment quand on met en balance la vie sacrifiée de ces 58 salariés qui perdent tout du jour au lendemain. Donc il y a une logique de réduction des coûts, mais il y a aussi, il ne faut jamais l'oublier, une logique de déresponsabilisation. Ils n'ont plus ça à s'occuper, ils n'ont plus ça à gérer. Si vous me dites, si vous me permettez d'être un peu vulgaire, ils n'ont plus besoin de s'emmerder avec ça, quoi. Voilà, l'entrepôt, c'est Géotis qui...
Avec les gens.
Voilà, c'est... Les gens et tous les ennuis que ça génère. Les accidents du travail, les primes de 13 mois à verser, les conflits syndicaux quand les patrons ils font pas ce qu'il faut et ne rémunèrent pas, ne redistribuent pas à leur juste valeur le fruit du travail des travailleurs. Il y a plein d'autres trucs, de tracas administratifs, maintenant c'est Géodis qui va assumer ça. Ils ont effectivement, Géodis, une espèce de savoir-faire, et on est dans une logique d'optimisation, mais qui va jusqu'au bout du bout en fait. Voilà.
Vous écoutez une émission diffusée pour la première fois le 23 septembre 2024.
On est au SMIC ici.
Au SMIC, ouais. Vous avez combien de temps d'ancienneté?
6 ans.
Vous êtes toujours au SMIC depuis 6 ans?
Je suis toujours au SMIC, à part ma prime d'ancienneté qui est de 30 euros, je suis toujours au SMIC.
Vous aussi?
Pareil aussi.
Ok, et depuis combien de temps vous travaillez?
3 ans toutes les deux.
Ouais. 3 ans, mais on a fait un an en intérim, ouais. Et ils prennent pas l'ancienneté. Du coup, on va dire que j'ai que 2 ans chez Nocibé. Ils
cherchent clairement que le profit. Pour ceux qui avaient fermé des magasins, pour en rouvrir maintenant, et maintenant ils ferment l'entrepôt logistique, alors qu'ils font des profits phénoménales encore cette année.
Moi, je pense que Géodis, c'est qu'une étape, une petite étape de Nocibé, et qu'ils voient en plus grand. Donc on n'est que des numéros en fait.
Ça pourrait être quoi leur grand projet?
Je sais pas du tout, mais...
Là, c'est pas qu'un simple transfert, on change d'employeur là. Mmh. On quitte l'entité Nocibé pour aller chez Géodis. C'est même pas un... C'est vraiment un transfert d'employeur.
Ils réduisent la marge salariale.
Exactement,
la masse
ça.
Salariale.
Oui, voilà, c'est ça. Il n'y a que la partie bureau, donc en dehors de la logistique, qui va rester sous l'entité Nocibé. Mais tout le reste, c'est Géodis.
Je reviens juste à votre salaire, le SMIC. Vous n'avez pas une convention collective avec une augmentation progressive?
Non.
Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour vivre avec un SMIC? Comment vous faites?
C'est compliqué, hein. Et moi, des fois, je me demande comment ils font les parents pour réussir à subvenir à nos besoins. Parce que moi, là, je suis seule, je suis à 1003, et en payant le loyer, la voiture, mon assurance, j'ai déjà plus rien. Donc, c'est très compliqué.
En fait, on vit pas vraiment à côté. Enfin, c'est mon cas, je pense que c'est le cas de beaucoup d'autres personnes aussi, mais on vit pas tous à côté. On profite pas comme on devrait profiter. C'est vraiment, on se lève le matin, on va travailler, on rentre chez soi. Durant le mois, on paye ses charges, on paye son loyer, on paye sa voiture, ses courses, et après, il nous reste pas grand-chose pour vivre. Donc, on vit à moitié.
Bah, en fait, on survit, quoi.
On survit ?
Ouais. C'est triste à dire comme ça.
De quoi on se prive ? Qu'est-ce qui manque le plus ?
Pouvoir faire de nouvelles activités, des bonnes activités, comme par exemple voyager. Ouais, les vacances.
Les vacances.
Enfin, voyager en dehors de la France, parce qu'on est jeune. C'est pas à 60 ans qu'on va se dire « Ah, si j'avais su, je serais partie. » De toute façon, t'as pas d'argent, donc tu peux pas partir.
Les vacances. Ouais. Moi, je vois dans mon entourage, j'ai beaucoup de personnes qui partent un mois en vacances, et moi, je suis partie une semaine, par exemple, parce que je pouvais pas me permettre de partir plus d'une semaine.
Une semaine, c'est rien. En plus, tu déposes.
Une année, c'est rien.
Bah oui, non. Bah déjà, même le concept de 5 semaines par année. Enfin, allô, on travaille toute l'année. On a que un mois. Même pas un mois complet, puisqu'on fait semaine par semaine comme ça.
Et quand c'est accepté.
Ouais, bah déjà, quand c'est accepté.
Accepté, donc, ouais.
Bah non, c'est compliqué. Surtout avec l'inflation.
C'est vous, vous devez quoi ?
Franchement, faire attention quand on part en vacances, c'est pareil, on est parti qu'une semaine par an, mais voilà. Donc, faut y rentrer.
Allez, on est des stars.
C'est pas une énorme entreprise, hein. On est sur quelques dizaines de salariés, avec des horaires qui sont décalés, donc tous ne sont pas là. Moi, je sais pas aujourd'hui vous dire combien il y a de grévistes. En tout cas, sur une action comme ça, là, entre le 14 juillet et le 15 août, on est très très content, nous, de la participation et de la réussite de ce piquet de grève aujourd'hui, hein, dans les conditions. On est quand même à peu près la semaine la plus morte de l'année, et on arrive quand même à mobiliser et à construire un rapport de force. On est vraiment content de cette mobilisation. Hein.
Les salariés que j'ai interviewés, en fait, sur le plan de leurs revendications, ce qu'ils veulent, eux, maintenant, c'est une prime décente pour le départ, pour les salariés qui refusent de faire les 40 km pour aller bosser chez Geodis. Mais on se retrouve encore une fois dans un combat un peu défensif, finalement. C'est-à-dire que là, il ne s'agit même pas de négocier, de se battre sur la pérennité de l'emploi sur le site. Il s'agit juste de négocier la prime.
Alors, c'est évidemment, on est aujourd'hui à un stade de cette lutte, comme on peut le voir ailleurs, où aujourd'hui la revendication, elle est sur de la réparation, et dont on sait que c'est une réparation qui, de toute façon, ne sera pas à la hauteur du préjudice. Hein. On a quand même sur des gens qui perdent leur emploi, avec les conséquences que ça peut avoir. Alors, effectivement, sur ce sujet-là, on sait très bien qu'on n'aura pas. Qu'il faudra qu'on ait des réponses à un moment donné qui soient sur des choix politiques. Qui soient sur des choix politiques pour dire, voilà, le fait d'avoir un emploi doit être un droit réel. Et c'est pas possible qu'on se retrouve aujourd'hui avec des choix capitalistes qui font que les salariés sont la variable d'ajustement de leur choix. Et peu importe ce qui leur arrive, peu importe ce qui leur... Voilà. Ça, de toute façon, on devra s'orienter. Et à la CGT, on a des propositions revendicatives qui sont dans ce sens-là pour garantir le droit du maintien dans l'emploi et du maintien de la rémunération, quels que soient les choix économiques qui sont faits.
Avec son sourire de cercueil, non, crois-moi qu'il a pas la gueule d'un terroriste. Non, c'est pas mes barres de blédard, c'est pas de cela ton émitard, mon terroriste. Oh non, mon ami, tu peux croire, lui qu'il a jamais vu de parloir.
Ce matin, on est parti travailler, on commence très tôt en logistique. On a commencé à 5h30 et donc tout ça a pris forme à partir de 8h. Donc à 8h, on est sorti, on a prévenu nos chefs, on a dit voilà, à partir de maintenant, on est en grève, on sort et voilà.
On est prêt à continuer, à relancer à chaque fois que ce sera nécessaire.
On n'a toujours pas ce qu'on souhaite, enfin si, on nous propose des solutions, mais c'est toujours pareil, il y a toujours un vice caché derrière. Et ça, on s'en rend compte, donc on est encore là aujourd'hui pour dire non, c'est toujours pas ça. On mérite mieux que ça quand même, un peu de reconnaissance.
Est-ce qu'il y a une discussion entre vous, la CGT et la direction ?
Il y en avait eu qu'au moment où ils ont attenté un procès pour enlever le piquet de grève au mois de juin. Et dès qu'ils ont eu le résultat du procès, qu'on nous a dit d'enlever le piquet de grève, ils ont arrêté toute négociation avec nous. Et continué avec la CFTC.
Et l'état de vos discussions avec la CFTC, ça en est où ?
Il n'y en a aucune.
Ils
ne prennent pas en compte nos avis, tout ce qui les intéresse, c'est ce qu'eux, ils signent. De toute façon, ils voudraient notre avis, ils seraient venus nous le demander, avant de signer un accord. Avant de signer un accord et nous le représenter.
S'il n'y avait pas eu la CGT, on n'en serait pas là. Hein.
Non.
On serait encore en train de travailler en se disant ben, on va partir avec le minimum légal, qui est de... Ben, moi, comme j'ai que 2 ans, même pas 1000 euros. Alors que j'ai donné de ma personne pour nos CV quand même.
Alors qu'aujourd'hui, grâce à la CGT, on a quand même une plus grosse somme. Alors on ne parle pas seulement d'argent. Hein. Oui, c'est beau l'argent, mais ça va nous permettre de rebondir derrière. Par exemple, des formations ou des projets professionnels divers et variés, de l'entrepreneuriat, etc. pour certaines personnes. Donc,
Il est plutôt vachement français, du genre courtier, costume, banquier, terroriste. Non, c'est pas l'ouvrier qui pend, son patron par les pieds pendant, mon terroriste. Qui en aura 2000 au chômage, leurs 20 ans d'usine en bagage, mon terroriste. Les poneys dans les HLM, dans l'insalubrité humaine, mon terroriste. Il vient plutôt des parisiennes, des insalubrités mondaines, mon terroriste. Les pas grévistes manifestants, lutte pas contre le dieu, l'argent, mon terroriste. Les pas paysans du Larzac, brûlent pas des McDo, des Big Mac, mon terroriste. Je crois pas qu'il paie souvent le loyer, y'a pas l'huissier qui vient frapper chez mon terroriste. Si c'est l'Élysée son quartier, puisque la France aime bien voter pour des terroristes. Il est pas solidaire cubain, il est pas anarchiste algérien, le terroriste. Les pas de la réserve des Indiens, les pas fils du Tché argentin, le terroriste. Il est plutôt sur les plateaux, à faire sa pute pour les blaireaux, le terroriste. Je crois pas qu'il paie beaucoup d'impôts, il crèche en Suisse ou Monaco, mon terroriste. Il est pas du peuple gitan, il est pas roumain, le président, des terroristes. C'est pas les sans dans son boulot, les sans-abri, pas les clodos, les terroristes. Il est pas bouddhiste au Népal, on ne se balade pas en sandales, mon terroriste. Avec son sourire de cercueil, non, crois-moi qu'il a pas la gueule d'un terroriste. Non, c'est pas mes barres de blédard, c'est pas de cela dans les mitards, mon terroriste. Oh non, mon ami, tu peux croire, lui qu'il a jamais vu de parloir, le terroriste. Il bosse plutôt dans les médias, roi de la propagandancia, le terroriste. Il taille des pipes à la finance, je crois qu'il est plutôt roi de la France, le terroriste. À chaque gamin qu'on fait sur terre, chaque respiration, mon frère, leur terrorisme. Moi je le sens comme une cartouchière, chaque fin de mois dans mon salaire, le terrorisme. C'est pas l'attentat dans le métro, c'est l'attentat dans ton cerveau, leur terrorisme. Nos humanités mises à mort, la pornocratie à tout bord, qui me terrorise. Alors à quand, dis-moi mon frère, nous montrons pour tuer les pères du terrorisme. Pour leur apprendre les bonnes manières, puisqu'en argent sont les cuillères du terrorisme. Puisqu'après tout, on est tous frères, pour leur apprendre un peu la terre, nos humanismes. La vie est
avertis au ministère, puisqu'il paraît faut faire la guerre au terrorisme. La guillotine au ministère, puisqu'il paraît faut faire la guerre au terrorisme.
Terroriste, Damien XVI.
Vous êtes à l'écoute de Radio Campus sur le 106,6.
Alors dans le reportage sur Nocibé, début août, que vous venez d'entendre, Nocibé en lutte, eh bien vous avez pu entendre des salariés, bien sûr, de Nocibé, des salariés grévistes. Vous avez entendu aussi un représentant de l'union locale de la CGT de Lille et Benoît Tiermarche, qui est un élu de la France Insoumise. Enfin, on peut quand même signaler que plus de la moitié donc des salariés finalement de l'entrepôt de Villeneuve-d'Ascq ont choisi de ne pas se faire embaucher par Géodis, ne pas aller travailler 40 km plus loin et travailler aussi des heures plus tard le soir. Et donc, il y a maintenant donc une trentaine de salariés là qui sont. Alors, c'est pas tout à fait le chômage, hein, mais enfin ça y ressemble. Ça s'appelle un congé de mobilité, c'est-à-dire qu'ils sont payés encore pendant 4 mois pour chercher du travail ailleurs. Et après quoi, les choses se terminent. Alors il y a quelqu'un d'autre qu'on n'a pas encore entendu et pourtant que j'ai rencontré à cette occasion, une dame qui se pointe sur le piquet de grève. Elle venait de l'autre côté de la grille. Alors c'était quand même un indice fort. Et elle se présente comme une représentante de la direction de Nocibé. Elle est avec son bloc-notes. Et puis, elle pose des questions aux gens. Elle vient me parler, elle vient me poser des questions. Qui je suis ?
C'est quoi, direction ?
Je bosse pour Nocibé, l'entreprise.
Oui, d'accord. Radio Campus, Radio Campus Lille.
Ok, je
ça me dérange pas. Ça me dérange pas, aucun problème. Voilà.
Notre boîte de com peut vous joindre à quel numéro, à quelles coordonnées ?
Là, vous trouvez ça sur Internet très facilement.
Voilà. Internet.
Est-ce que moi, je pourrais discuter avec quelqu'un de la direction ?
Pour le moment, moi, j'ai pas de... On m'a simplement demandé ça. On m'a rien demandé.
Rien.
Merci beaucoup, en tout cas.
Et oui, t'auras rien, me dit le camarade de la CGT qui était à côté de moi. Et en effet, on n'a rien eu. Hein. On essaye, vous le voyez, de tendre le micro quand même régulièrement de l'autre côté de la barricade. Mais il faut bien dire ce qui est du côté des patrons. Ça,
chacun chez soi.
Oui, c'est ça ça, ça. Ça cause peu avec nous. Mais toi-même, Fabienne, t'étais allée, c'était pas ce jour-là, mais un autre jour peut-être en solidarité, en soutien sur ce piquet de grève de Nocibé. Tu peux nous raconter ?
Tout à fait, et on a reçu un drôle d'accueil, puisque l'huissier, ou plus exactement une personne qui l'accompagnait, parce que l'huissier n'avait pas le droit de faire ça, elle venait voir les nouveaux arrivants sur le piquet de grève, et elle leur demandait leur nom, leur prénom, leurs coordonnées.
Et t'as réagi comment t'as...
Bah, je lui ai demandé si c'était légal, si j'étais obligée de donner, elle m'a dit non, et puis de toute manière, vous ne l'aurez pas eu, même si ça avait été obligé. Donc voilà, c'est une. Je trouve que c'est une méthode de flicage où maintenant ils ne font même plus l'effort de se déguiser ou de passer par les renseignements territoriaux. Ils viennent directement voir les gens. C'est quand même assez gonflé, j'ai trouvé, comme procédure.
Et. Oui, tu voulais rajouter quelque chose.
Non, je te demandais si toi, tu n'avais pas eu ce genre de...
T'as bien entendu, là, en effet, oui. Là, donc elle vient... C'est vrai que la démarche est un peu particulière, mais enfin, ils étaient quand même un peu à la ramasse, parce qu'il y avait d'autres journalistes qui étaient là, mais qui sont restés un peu moins longtemps que moi, Et il y avait la Voix du Nord notamment, mais enfin, quand la dame de la direction dit « Mais ils sont où vos collègues ?» Alors, pas tout à fait, mes collègues quand même, hein, bon, mais pourquoi pas, bon. Non, ils étaient déjà partis, voilà, hein, la direction a réagi, mais un peu tard. Bon, on va être un peu plus nerveux sur ce coup-là la prochaine fois chez Nocibé. Allez, on se retrouve dans quelques minutes sur Radio Campus, c'est toujours « On passe au rouge » sur le 106,6 en modulation de fréquence.
Devant nous les casquets, les fusils lance-grenades et les grands boucliers. Tout ça pour nous forcer quand nous n'avions pour nous que nos poings le bon droit et puis quelques cailloux. D'abord on s'avançait en frappant dans les mains. Il y en avait parmi eux des vraies têtes de gamins. Les regards s'affrontaient face à face de tout près. Eux devaient la boucler, nous parions, on chantait. Allez les gars, combien vous paye? On ne grenade pas les enfants, on nous attaque, on se défend. Désolé si c'est toi qui prends. Oh,
allez les gars, combien on paye? Combien on paye pour faire ça? Allez les gars, combien on paye? Combien on paye pour faire ça?
Pense à ce pour qui tu travailles, qu'on voit jamais dans la bataille. Pendant que tu encaisses des cailloux, franchement, c'est quand même pas la vie que t'avais rêvé pour toi. Cogner des gens pour faire tes heures, t'aurais mieux fait de rester chômeur.
Oh, allez les gars, combien on paye? Combien on paye pour faire ça? Allez les gars, combien on paye? Combien on paye pour faire ça?
Je ne me fais guère d'illusions sur la portée de cette chanson. Je sais que tu vas pas hésiter.
C'était Gamme, allez les gars.
Radio Campus Lille, disponible en DAB+.
Alors, allez les gars, pour plus de répression syndicale, eh bien c'est bizarre justement, nous allons parler répression syndicale.
Avec un nouveau souvenir de vacances, ou plutôt souvenir de rentrée.
Et avec Jean-Paul Delescaut, dont nous suivons bien entendu l'évolution militante, avec la répression dont il a été victime pour son soutien à la résistance du peuple palestinien, et Frédéric Gillot, un député belge du Parti des travailleurs de Belgique.
Un son que nous diffusons avec l'aimable autorisation de Radio Campus et de l'émission L'Heure de le Maître.
Oui, dès le 10 octobre, on a décidé de faire un tract pour informer les travailleurs de la situation parce qu'on savait très bien ce qui allait se passer dans la bande de Gaza et le génocide qui allait se mettre en place. Et donc on a fait un tract et ce tract est remonté au plus haut niveau, au niveau politique. Et donc le 20 octobre, la police est venue chez moi me chercher à 6h au matin. Et donc, on est passé au tribunal, l'union départementale est passée au tribunal le 28 mars, et donc accusé d'apologie du terrorisme et incitation à la haine raciale, donc un an avec sursis. Donc là, on est en appel, bien sûr, mais un an avec sursis pour avoir dénoncé et en même temps, surtout, pour avoir appelé à la paix et un cessez-le-feu immédiat à Gaza.
C'est vraiment symptomatique, parce qu'à la limite, quand on parle, on ne prend même pas un parti. Je veux dire, même des gens de gauche vont dire s'ils ne veulent, parce qu'on sait les médias et on sait les institutions, on ne va même pas dire c'est eux qui ont raison, c'est eux qui ont tort, même si on est convaincu de la réalité. On va simplement appeler à la paix, comme le camarade de la CGT vient le faire, mais rien que ça, formuler un appel à la paix, un cessez-le-feu immédiat, ça vaut que tu sois condamné pour parler en tout. Enfin, tu te dis.
Alors, pour être précis, la condamnation, elle intervient aussi sur une phrase. Il y a une phrase qui explique simplement, qui remet dans son contexte historique les événements du 7 octobre. Et qui dit que c'est la suite d'une histoire très longue. Mais... Et tu sais ce qu'a dit le tribunal il a dit, en fait, Jean-Paul a été condamné, la CGT a été condamnée parce que. Dans les attendus du jugement, il est écrit presque noir sur blanc qu'un syndicat n'a pas à faire d'analyse historique.
C'est fou parce que syndicat, allez, moi quand j'étais délégué syndical, et c'est ce que je disais toujours aux militants, et je suis persuadé que la CGT partage vraiment cet aspect des choses, c'est qu'être délégué syndical, c'est aussi, mais ce n'est pas seulement défendre des travailleurs dans l'entreprise, c'est aussi avoir un projet de société. Dès lors où tu as un projet de société, tu entres dans le champ politique. C'est inévitable. Et alors faire de la conscientisation aux travailleurs par rapport à l'entreprise, aux enjeux syndicaux, et de la conscientisation aux travailleurs par rapport aux enjeux extérieurs, évidemment, et qui ont une grande influence sur notre vie aussi, il ne faut pas l'oublier. Mais évidemment que c'est notre rôle, on est là pour ça, quoi. Donc il était condamné parce que tu fais ça. Évidemment, ça, les institutions et le pouvoir ne vont pas admettre ça. Je veux dire, on n'est pas étonné, mais...
Voilà. Il préfère peut-être voir le syndicat comme une espèce d'institution en soi qui fait partie du système. Est-ce que c'est pas un petit peu ça aussi le débat, Jean-Paul, dans ce jugement, finalement, il dit que bon, le syndicat, c'est gentil, mais à condition qu'il fasse du dialogue et non pas qu'il fasse de...
Oui, ben, c'est un peu... Ce qu'on est en train de vivre au niveau français, au niveau des organisations syndicales, hein. C'est le dialogue social, c'est la discussion avec le gouvernement. On discute, mais au final, c'est les travailleurs qui trinquent et qui payent la facture. Donc, nous, notre rôle, c'est justement de remettre ça dans le contexte historique. Pourquoi ? Parce que l'histoire est très importante. Les travailleurs doivent connaître leur histoire. Premièrement, pour ne pas la reproduire. Alors on a, nous en tout cas pour la CGT, 120 ans d'histoire. Et donc, et l'histoire du mouvement syndical, la CGT y a beaucoup contribué en France. Et donc, on a besoin de continuer de débattre avec les travailleurs, leur faire prendre conscience aussi que entrer en guerre, premièrement, ça tue les populations et ça tue les travailleurs. Ça tue pas les industriels, les riches, les bourgeois et les capitalistes. Ça tue nos enfants à nous. Et premièrement, ça tue. Deuxièmement, ça donne pas du pouvoir d'achat. Hein. Et le pouvoir d'achat, pour aller le chercher, bah, il faut la grève dans l'entreprise et faire comprendre aux travailleurs que la question internationale se gagne et se travaille d'abord à l'entreprise.
Évidemment. Et alors, je vais dire aussi, l'enjeu dans lequel nous sommes, les uns et les autres, hommes et femmes de gauche, militants syndicaux ou même politiques, c'est de rendre cette conscience de classe aux travailleurs. De ne pas dire on est tout le monde sur le même bateau. Non, non, c'est pas vrai ça, c'est ce qu'on veut nous faire croire. Mais en fait, rendre aux travailleurs et aux travailleuses cette conscience de classe. Alors je crois évidemment avec le nord de la France et la Belgique, on a vraiment beaucoup de points communs, on a une histoire qui est quand même commune, en tout cas syndicale et ouvrière, on a suivi les mêmes. Et c'est vraiment ça, et c'est l'enjeu. Et dès lors que tu vas essayer de rendre cette conscience de classe par rapport à des discours internationaux aussi, de politique internationale, et on va te taper sur les doigts, hein. On dirait non, fille, tu peux pas, hein. Toi c'est seulement dans l'entreprise, c'est oh, mêle-toi de ce qui te regarde, allez, c'est, l'institution va essayer ça, mais en Belgique c'est pareil, hein. Quand je vois la chasse aux délégués militants syndicaux qui est organisée par les institutions on vit exactement la même chose. Et je crois même que le nord de la France et la Belgique, c'est pas des cas isolés, c'est un peu partout en Europe où on voit que les militants syndicaux, les délégués syndicaux sont vraiment sous le feu maintenant d'une droite qui s'affirme de plus en plus, complètement décomplexée.
Bataille d'accent sur le 106,6 entre l'accent belge et puis l'accent ch'ti de Jean-Paul de Lescot. On voit que par-delà la frontière, il y a quand même une très nette communauté d'intérêts. Je voudrais quand même te demander, Fabienne, est-ce qu'aujourd'hui, pour toi, Israël a toujours comme cible Gaza? Ça n'existe plus, Gaza. Il n'y a quasiment plus rien. Enfin, je veux dire,
ils ont tout liquidé, là-bas,
ils ont tout
Gaza.
Liquidé, quoi. C'est détruit. Il y a des endroits qui ressemblent à Tchernobyl, alors qu'avant, il y avait des villes, des rues, des gens, des habitants, des commerces, ouais. des écoles et des hôpitaux, des trucs comme ça.
La désolation la plus complète.
C'est la désolation, mais enfin, il y a peut-être d'autres cibles maintenant pour Israël.
Ah, tout à fait. Le sud Liban, d'abord, avec le Hezbollah, hein, qui a pris fait et cause pour le peuple palestinien et qui en subit les conséquences. Donc, Israël, aujourd'hui, a de toute manière décidé que la Cisjordanie subirait le même sort que Gaza. Hein,
ah oui, parce que là, il y a une augmentation de la mortalité en Cisjordanie là, ces derniers temps. Hein.
Tout à fait. Le concept de génocide peut maintenant être appliqué à la Cisjordanie, hein, je pense. Et en fait, en Syrie aussi, où Israël, de temps à autre, balance quelques bombes, envoie des drones. Et donc, tu as un groupe qui s'appelle, si je me souviens bien exactement, les gardiens de la révolution en Syrie, qui eux aussi s'en prennent à Israël. Mais on voit la stratégie de Benjamin Netanyahou, qui en fait voit qu'il s'enfonce. Ça, en Palestine, s'il reste dans le simple cadre de la Palestine, eh ben, les peuples du monde entier sont contre et il va avoir de plus en plus de difficultés à pouvoir maintenir cette option politique.
Donc il s'offre des ennemis un peu moins présentables, quoi.
Voilà, et il se présente d'autres ennemis, y compris des ennemis qui peuvent être étatiques, c'est-à-dire avoir des guerres d'État à État. Et je pense que c'est ce que cherche aujourd'hui Netanyahou, pour redonner un peu de splendeur à sa guerre, parce que là, franchement, ce qui se passe avec le peuple palestinien, que ce soit en Cisjordanie, que ce soit à Gaza, tout le monde a vraiment conscience que c'est lamentable.
Il y a quand même une question internationale sur la démocratie, parce qu'on se rend compte que ça soit en France, avec le coup de force de... Là, on entend les camarades de l'émission d'à côté. Excusez-nous, on est en direct, là, pardon. Hein. Voilà, non, mais ça va aller. Il y a des émissions qui s'enregistrent, évidemment, sur Radio Campus, en même temps que nous faisons du direct. On passe au rouge, et je le prouve, 19h51 et 50 secondes sur notre antenne. Cette question de la démocratie, alors on voit bien en France à quel point elle est dévoyée. Mais là aussi, parce qu'Israël est quand même présenté comme un État qui est démocratique, le seul démocratique de la région, une armée présentée comme exemplaire. Hein, c'est quand même c'est des éléments de langage qu'on nous donne. Oui, drôle de gueule la démocratie en ce moment, non ?
Oui, mais cette image a de plus en plus de difficultés à tenir. Parce que ça devient tellement gros que même les médias qui ont le vent en poupe ne peuvent plus cacher la vérité. Là où on disait il y a quelques mois c'est peut-être un génocide, le peut-être maintenant tend à disparaître, tellement c'est immonde le nombre de décès, le nombre de blessés qui a lieu, tous les jours, voilà, des gens qui meurent tous les jours en Palestine aujourd'hui. Et
tu veux ajouter quelque chose avant qu'on enchaîne sur la prochaine chanson,
Enchaînons sur la prochaine chanson.
Enchaînons. Et on parle de démocratie.
Je prends le micro pour m'adresser à nos politiciens sans âme. Vous qui avez tourné le dos à vos propres semblables, ceux que vous prétendiez justement représenter. Vous pensiez vraiment nous tromper et garder le secret entier. Mais notre liberté n'a pas de prix, vous n'entendez pas nos cris. Vous ne savez qu'envoyer vos flics et leur panoplie. Je vais peut-être vous l'apprendre, mais nous ne sommes pas tous corruptibles. Demandez aux Français si le droit de voter est encore utile. Vous êtes face à un mouvement de révolte sans précédent. On n'a plus confiance en vous, vu vos antécédents. On a déjà encaissé tant, vous avez prouvé qui vous êtes. On n'a plus grand chose à perdre. on va miser tout ce qui nous reste. Un mouvement citoyen qui représente le vivant, pendant qu'ils nous regardent avec mépris depuis leur divan. Œil pour œil, dent pour dent, c'est ça le dicton. Seigneur, ne leur pardonne pas, car ils savent ce qu'ils font. Leur morale est une insulte à la vie, une vile maladie. Quand je les vois, je me dis que certains méritent l'euthanasie. On a l'impression qu'on vit dans un état nazi, gangréné par de vrais parasites que nous prépare la suite. Car tout ça ne profite qu'à une minorité. Il est temps que ça change et redéfinir nos priorités. Ils n'ont de cesse que satisfaire leur insatiable avidité. L'humanité voudrait les virer à l'unanimité. Ces corrompus dissimulent tous les scandales sanitaires des entreprises pharmaceutiques et agroalimentaires. Trop de sujets placés sous la loi du silence. Derrière le voile des apparences, il se passe des trucs hallucinants. Ils ont des armes silencieuses pour faire des guerres sans bruit. Derrière leurs mensonges fallacieux, tous les cœurs sont gris. Ils font régner la peur comme une épée de Damoclès. On va les sortir par la peau du cul, ça va leur faire mal aux fesses. Société binaire au comportement linéaire, nous conduisant doucement vers la fin de cet itinéraire. Ils nous ont mis les nerfs. C'est taré, veulent nous égarer. On vous laissera pas dominer le prochain millénaire. Bienvenue en démocratie. Dans ce monde raciste, tout ce qu'on fait ne fait qu'alimenter la pompe afrique. L'Occident se voit la face, mais commence à voir la farce. Et réalise que si on change pas de cap, on va boire la tasse. Et si le taf c'est la santé, on va regarder le taux de suicide. On veut choisir et non subir, vivre et non survivre. Décider et pas débattre et arrêter de se prendre des baffes. Le jeu était truqué dès le départ, mais vous l'admettez pas. Les plus vaillants parmi nous sont éborgnés ou en prison. On doit lutter pour notre liberté et leur libération. Manu, on vient te chercher, tu descends. On voudrait parler des réels intérêts que tu défends. Système de pédophile façon Frédéric Mitterrand, c'est sidérant. Mais je continuerai à dire tout ce qui dérange. Ils pourraient me faire passer pour déranger comme Stan Mayo, ou me buter pour avoir parlé comme Aaron Rousseau. Ils commettent tous les délits pour lesquels ils nous condamnent. Ils t'imposent leur délire afin de pervertir ton âme. Aucune vertu, moi tout ce que je vois c'est des voyous. Des corrompus qui n'ont pas plus d'empathie qu'un caillou. Tu voulais la vérité, en voici la partie sombre. Un scénario écrit à l'avance comme une partition. Le président change la prestation mais n'altère pas le script. On les a tous vus faire les laquais au dîner du CRIF. Mais si Dieu existe, c'est pas une planche à billets. Et le vertueux ne se voit pas à sa façon de s'habiller. Je rêve de justice, moi je suis pas là pour briller. Peu importe ta religion, je te conseille de prier. Car ils appliquent leur plan démoniaque à grande échelle. À cause de la nature meurt, les éléments se déchaînent. Quand va-t-on arrêter de se comporter comme des chèvres? Le peuple est-il enfin prêt à briser ses chaînes?
Bilard, démocratie.
Poisson rouge, chaque lundi de 19h à 20h sur Radio Campus en 6,6.
Alors, il nous reste juste quelques toutes petites secondes avant de céder le micro à Milky et son émission Rien n'a encore changé. Fabienne, j'ai une surprise pour toi. Oui, j'ai une surprise parce que on était le 7 septembre, c'était la rentrée, et sur la place de la République, on a diffusé le reportage d'ailleurs, c'était je crois la semaine dernière, sur la place de la République, et ben on a tendu notre micro pour interroger les gens qui voulaient défendre un peu la démocratie, et puis aux surprises, voilà que tu te pointes, tu chopes le micro de la Sono, il y avait le camion de la CGT qui était là avec une Sono, et on t'entend, alors je t'ai enregistré, et puis on t'entend ben, quelques instants, hein, c'est une petite minute quoi Fabienne, c'est toi. Ah, regarde, le peuple t'aime Fabienne.
Chers amis, chers camarades, nous voici de nouveau mobilisés un samedi, puisque le président de la République a décidé de nier le processus démocratique à l'œuvre dans notre pays. Il a volé le choix du peuple en décidant de choisir un Premier ministre dont le groupe arrivait quatrième avec 41 députés. Tandis que le nouveau Front populaire, avec ses 193 députés, est totalement ignoré. Emmanuel Macron montre une nouvelle fois tout le mépris dont il est capable vis-à-vis des classes populaires et leur mobilisation contre le fascisme au second tour des législatives. Combien de députés fascistes en plus si les candidats du nouveau Front populaire et leurs électeurs n'avaient pas contribué à la victoire de députés de droite contre les députés du Rassemblement national? Mais nous refusons de nous laisser spolier de notre victoire. Et puisqu'on nous refuse le résultat des urnes, nous viendrons le chercher dans la rue. Ces mobilisations ne sont qu'un commencement. Nous devons construire partout où nous sommes présents des fronts anti-libéraux et anti-fascistes. Car l'enjeu est là aujourd'hui.
Bravo Fabienne, bravo Fabienne. Alors c'est une espèce de selfie sonore hein, qu'on vous propose là aujourd'hui.
Comme quoi je ne dis pas que des
conneries.
Hein? Comme quoi je ne dis pas que.
Ah non, t'étais très juste, pardon. Mais bravo. Alors on ne dira pas au nom de quelle organisation hein, tu t'es exprimé là. Non, on ne le dira pas, on ne le dira pas. Mais on peut le deviner. Voilà, on passe au rouge, c'est terminé. Une petite annonce, Fabienne, rapidement.
Oui, le 1er octobre, 14h30, porte de Paris, manifestation pour nos retraites, pour nos salaires, pour nos conditions de travail.
Alors, la rentrée sociale, voilà, déjà commencé, mais enfin, là, c'est quand même un moment fort où c'est interprofessionnel. Tous les salariés et puis ceux qui sont privés d'emploi sont invités à se mobiliser le 1er octobre.
Tout à fait, c'est une journée de grève. Et les deux précédentes journées, on était sur du samedi et sur une mobilisation plus citoyenne. Aujourd'hui, voilà, on rentre dans le fer de la guerre parce que la grève, c'est l'arme des travailleurs.
Alors, on peut déjà vous annoncer que l'émission de la semaine prochaine, ça sera le retour de l'heure des proles, donc accueillie dans On passe au rouge, une émission qui sera réalisée par Jean-Jacques, et nous aurons un certain nombre d'invités. Les invités, parce qu'on a décidé d'inviter le nouveau Front Populaire, donc avec le PS, Sarah Kerish, Annette Ambert des Écologistes, David Guiraud ou sa suppléante de la France Insoumise, et puis nous avons aussi quelqu'un du Parti Communiste Français, ça fait longtemps qu'on les a pas entendus ici, le PC. Et ils nous ont envoyé Erwan Jacquemart, qui est le secrétaire à la vie du parti pour la fédération du PCF. Salut Milky, bis, à bientôt.
Merci, à toutes.
À tout de suite.
Vous écoutez une émission diffusée pour la première fois le 23 septembre 2024.